Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur le Flux en direct du Festival Entrevue pour sa 29e édition. Nous sommes vendredi, je crois, on perd un petit peu la notion du temps ici à Belfort. Et Caroline est en face de moi. Bonjour Caroline.
Bonjour Cécile, bonjour à tous.
Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de voir, toi, il y a quelques instants ?
Alors j'ai commencé à regarder un film que je n'ai pas vu en entier, et je suis en train de le regarder non pas en salle, donc il s'agit de Sud au Nord déplacé, qui est un documentaire d'Antoine Boutet, qui est donc un film qui fait partie de la compétition internationale long métrage, un documentaire sur la Chine.
Peut-être voilà. Que nous aurons l'occasion de recevoir le réalisateur, on ne sait pas encore, mais en tout cas nous avons à nos côtés un autre réalisateur qui participe aussi à la compétition avec son film Okebai Aulum. Alors bonjour Stéphane Libio.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien le titre du film déjà ?
Je ne suis pas non plus très doué en portugais, donc mais de mémoire, ça serait plutôt Okebai Aulum, mais c'était très proche.
Ok, bravo. Merci. Alors je viens juste de voir ce film. Alors quelle est l'histoire de ce long métrage un petit peu étrange qui nous happe dans son étrangeté ? C'est votre histoire. Vous êtes à la recherche de Pedro, un ami que vous avez perdu, et vous vous retrouvez dans ce village qui est Péniche, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et vous rencontrez des gens qui ont croisé la route de ce Pedro-là et qui vous racontent ces moments qu'ils ont vécu avec lui. C'est ça.
C'est presque ça.
C'est presque ça.
Oui.
Alors dites-moi pourquoi c'est presque ça.
Parce qu'effectivement c'est ça, parce que c'est dans un village qui s'appelle Peniche et qui est à 80 km au nord de Lisbonne, qui est une presqu'île, une péninsule qui avance très très loin dans la mer, donc qui est entourée de falaises, etc. C'est le village le plus à l'ouest de notre vieux monde occidental. Et la nuance que j'y mettrais, c'est que ce Pedro n'a jamais existé.
Voilà, c'est voilà. Ça. Je voulais y venir, puisqu'après le film, on a eu l'occasion d'en discuter avec vous. Et vous nous dites que ce film, il n'a pas été écrit et que l'idée vous est venue un petit peu par hasard, finalement.
L'idée m'est venue... au départ, effectivement, c'était... C'était aller là-bas avec une caméra tout seul et faire un film sur un homme qui aurait disparu, un ami qui aurait disparu. Et l'idée m'est venue au fur et à mesure d'inviter les gens que je rencontrais à me raconter une histoire sur cet homme-là, en leur disant « cet homme-là n'a jamais existé, donc il a disparu avant même d'avoir existé. » Mais il était quelque chose comme un prétexte pour accueillir des histoires des gens. Je me suis rendu compte assez vite que les gens ouvraient complètement leur vie, en fait, enfin des pans de leur vie, et ça se raccrochait à ce personnage de Pedro.
Est-ce que ça a été facile d'embarquer ces gens-là dans ce personnage qui n'existe pas ?
Ça a été, ils l'ont fait avec beaucoup de bienveillance, mais pour certains, il y a eu beaucoup de travail, mais de leur côté, parce que je leur donnais 2-3 consignes. Je leur demandais de retourner chez eux, je leur racontais le principe et je leur demandais de retourner chez eux et de venir me voir quand ils avaient trouvé une histoire. Donc à cela, des fois, je rajoutais 2 consignes, quelques mots-clés que je voulais entendre, des contradictions, parce que je voulais pas qu'on me raconte à peu près la même histoire. Je voulais surtout pas que Pedro ait les mêmes caractéristiques psychologiques d'une histoire à une autre. Je voulais un personnage très très complexe, insaisissable. Et donc ça a varié évidemment, mais les 8 personnes, parce qu'il y en a pas plus, se sont prêtées au jeu avec beaucoup de plaisir, je crois.
Alors ce qui moi m'a frappé, c'est que lors de la rencontre, on comprend bien que c'est presque de l'ordre de la manipulation, puisqu'on nous fait croire, en regardant le film, que ce Pedro existe vraiment et qu'il est votre ami. Et on se prend presque à être triste pour vous qui avez perdu cet ami-là qui s'est suicidé. Et en même temps, ce qui est très chouette et très beau aussi, c'est que vous nous manipulez aussi sur le paysage qu'on voit, c'est-à-dire que vous prêtez une histoire, une géographie, à ce paysage-là. Est-ce que c'était une volonté de votre part aussi de nous montrer un paysage autrement qu'on ne le verrait nous si on s'y promenait ?
Oui, parce qu'en effet, Péniche, moi je montre les faubourgs les plus glauques, les plus en destruction de Péniche, qui est une ville de toute façon qui se nourrit un petit peu du tourisme, mais du tourisme de surfeurs alentour. Alors, qui restent sur les plages en fait, mais qui ne vont jamais à l'intérieur de la ville d'ailleurs. Mmh. Et je suis resté en fait sur quelque chose qui m'apparaissait être l'intérieur quand même, pas ce qu'on voit quand on arrive, qui est plutôt assez coquet, mais l'intérieur de la ville qui est une ville qui vit d'un passé et où il y a 80% de gens qui sont au chômage et donc en fait voilà qui c'est une espèce de on sait qu'il y a une grosse crise économique en Europe, il y en a une très grosse au Portugal et dans des endroits pareils c'est encore plus accentué.
Mais justement, il y a ce personnage auquel on s'attache assez facilement qui s'appelle Rui. C'est ça ?
Rui, oui. Ouais.
Et on ne sait pas très bien ce qu'il fait de sa vie. Alors, il cuisine, il raconte des histoires, il fume des cigarettes, il boit des coups. Et il est dans cette maison. Alors, vous nous avez appris après le film que c'est une maison de pêcheurs, en fait, où les gens entrent, viennent.
C'était auparavant le syndicat des pêcheurs. Et le syndicat des pêcheurs a fermé il y a une vingtaine d'années parce qu'il n'y a presque plus de bateaux de pêche. Hein. Il y en avait 800 et il n'y en a plus que 8. De tradition, effectivement, tous les gens qui passent à Péniche, même dans les plus jeunes générations, savent que dans cette maison a abrité beaucoup de débats politiques. Mais maintenant, elle est privée viennent beaucoup de gens qui ont la clé, mais pour discuter effectivement pas de politique nécessairement, hein, pour vivre et pour boire des coups et chanter, et rire et voilà. Il y a une communauté, ce sont la plupart des gens que j'ai filmés d'ailleurs, et il y a une communauté très 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 vive. Et malgré le fait que tous les jours, ça, c'est un peu la même chose, quoi.
Et alors, par rapport à Rui, vous nous avez dit, après le film, que c'est un petit peu grâce à lui que l'idée du film, en tout cas, s'est recentrée, puisqu'il vous a dit à deux fois le mot « vide ». Et c'est vrai que c'est une notion qui est assez permanente dans ce film, notamment avec un... Lorsqu'on voit une discussion Skype avec un ami à vous, on ne sait pas très bien qui il est, mais ça n'a pas d'importance, qui vous dit que le fait d'être à la frontière de quelque chose, d'être ici, donc, au bord du vide, nous ramène à quelque chose de très difficile, mais qu'il faut qu'on... quelque chose auquel il faut qu'on soit confronté, en tout cas, oui. La folie ou la mort pour révéler une sorte de vérité.
Oui.
Et tout cela est raccroché à cette notion de vide-là. Alors expliquez-moi, parce que j'aimerais bien connaître un petit peu le fond de votre pensée là-dessus.
Eh ben, le fond de ma pensée, j'ai eu envie quand même que la pensée soit une pensée juste véhiculée par des images. En réalité, j'ai pas trop envie d'avoir un parallèle avec un langage discursif, mais effectivement cet homme-là le dit très bien, c'est un psychanalyste, il parle très bien, comme vous dites, de la confrontation avec la limite à condition d'être du bon côté de la limite. Et en fait voilà, mais vous avez parlé du territoire, et ça c'est vraiment important, effectivement, de cette géographie du lieu. J'avais presque inventé dans le film une espèce de psychologie en pensant que les hommes qui vivent à un endroit sont aussi assez déterminés par rapport à la forme de la ville. Et ce qui fait que les gens là-bas sont confrontés au vide, parce que le vide est au bout de chaque ruelle, qui est une ville qui est construite en damier. Et qu'il y a une rue qui peut aller vers le continent ou vers d'autres espaces. Voilà. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était cette notion de toute façon symbolique de ce monde à l'extrême ouest, et que c'est ce monde-là qui pouvait nous parler de l'Europe aussi, d'aujourd'hui, en fait, d'une Europe, celle du milieu, celle de nous dans laquelle on vit en France, qui est une Europe où on, qui a largement vieilli et qui dans laquelle les débats tournent en rond. D'un point de vue politique.
Une Europe dans laquelle on se perd, en fait.
une Europe dans laquelle on se perd, voilà, et où on pouvait, voilà, pour se retrouver, c'est pas mal d'aller dans ces frontières-là, dans ces limites-là, pour entendre quelque chose de nous, encore, qui résonnerait.
Caroline ?
Et cette question des frontières et des limites, c'est une question qui, pour vous, vous intéresse aussi à travers le cinéma ? Enfin, c'est une question de cinéma ?
Oui, c'est une question de cinéma. En tout cas, c'est une question de cinéma. C'est une question qui peut être traitée au cinéma. Je pense de, en tout cas, ce qui me concerne, je, de plus en plus, j'aime faire des films en voyageant, en, en bougeant, en, donc en, en allant chercher, chercher le, comment vivent les autres. En inventant des choses avec eux, c'est pas la première fois que je faisais ça, en fait, ce genre de choses, d'une certaine manière. Mais
Mais alors, vous nous avez expliqué donc ce qui vous intéressait dans ce village. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez jamais pensé à filmer en France. Vous avez d'emblée pensé à tourner au Portugal.
Oui. Pour cette sujet, ce sujet-là, ce vide, cette, cette envie de parler du suicide et du, et de, c'était, c'est quelque chose. C'est la rencontre avec ce, avec le Portugal, là, de toute façon, qui m'a.
D'accord. Je vous pose cette question parce que vous vous disiez précédemment que donc c'est l'histoire d'une personne qui n'a jamais existé, qui a disparu avant même d'avoir existé. Ça, ça fait quand même vraiment penser aussi à Fernando Pessoa.
Et justement, vous l'évoquez d'ailleurs.
Oui, je le cite plusieurs fois. Oui.
Et donc c'est une figure qui vous a influencé aussi pour ce film ?
Ah, c'est une figure qui reste. Oui, j'ai lu. Enfin, j'ai. C'est quelque chose qui reste dans mon petit panier des lectures de mon adolescence aussi, et puis que j'ai réouverte à l'occasion du tournage. Et cette multiple identité aussi de Pessoa m'intéressait aussi. Effectivement, Pedro.
Pedro, est-ce que Pedro est Pessoa ?
Peut-être.
Parce que Pedro est multiple aussi.
Oui, Pedro est multiple aussi, oui. Il a plein d'identités aussi. Mais il n'a rien écrit. Et alors on ne sait plus.
Peut-être qu'il a écrit des choses et qu'on ne le sait pas.
On n'a peut-être pas encore trouvé la malle.
Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce film mêle plusieurs genres. On pourrait croire à un documentaire, ça ne l'est pas, c'est une fiction. Mais on en discutait avec Olivier qui a vu le film aussi, au final. On s'en fiche parce que c'est beau simplement. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre manière de filmer qui est à la fois très professionnelle. On retrouve des plans qui sont très esthétiques et à la fois très amateur, puisque on vous voit poser la caméra souvent sur la table, un petit peu comme ça, à la va-vite. Est-ce que ça vous amusait un petit peu de mêler ces deux formes, en tout cas?
Oui, oui, la caméra était là pour témoigner de ces deux formes-là. C'est-à-dire que j'avais envie d'aller dans des codes formels de la fiction, effectivement, en la posant, en cadrant, en faisant des choses qui pouvaient ressembler à de la fiction, aussi pour donner des indices de ça, mais c'est aussi parce que je suis pas un réalisateur de documentaire, hein, du tout. Donc à la base, je suis plus intéressé par la fiction. Et donc même quand je pose la caméra et que parce que c'est la fin et que je garde ça au montage, parce que de toute façon c'est l'idée évidemment de le garder au montage pendant que je le fais comme ça peut ressembler effectivement à du documentaire, parce que tout d'un coup on donne à sentir une présence de la caméra de manière inhabituelle, et en même temps ce geste là est pour moi de la fiction, là, pour le coup. Et la fiction, je la voulais. Quand la fiction m'intéresse, c'est quand elle est vraiment d'ordre minimaliste. J'aime plus les histoires. Voilà. Là, la caméra, effectivement, a ce rôle-là, quoi, d'aller shipper un peu de partout dans ces codes-là et de me surprendre aussi.
Finalement, cette caméra nous donne un indice sur le fait que ce film est une fiction.
Oui.
Oui. C'est ça. Oui. Alors vous le disiez aussi, j'étais contente de vous entendre dire ça parce que moi je l'ai vu pendant le film, c'est que cette caméra c'est votre œil et on le sent vraiment, c'est-à-dire qu'elle se raccroche à un bout de papier qui bouge au sol, elle se raccroche à une herbe folle, ça c'était quelque chose qui était important pour vous ?
Oh oui, c'est quelque chose qui est primordial de toute façon, hein, parce que le film a été inventé au fur et à mesure par mon œil, en fait, le plus possible. En fait, je voulais que les choses soient liées de cette manière-là. Même les intervenants sur Skype et les. En fait, j'ai l'impression, la plupart du temps, que j'ai évolué de jour en jour, j'ai raccordé de jour en jour, j'ai assemblé les morceaux. Enfin, mon chemin, c'était un chemin rétinien, c'était pas autre chose, en fait.
Et c'est votre façon de travailler en général ? C'est comme ça que vous construisez vos films ?
Non, là, c'était principalement la première fois comme ça.
Alors, vous aviez fait, avant ce film, deux longs métrages que je n'ai pas vus. Moi, c'est le premier film de vous que je voyais aujourd'hui. Et je me pose la question, à quoi ces deux longs métrages ressemblaient ? Est-ce qu'il y a des choses en commun avec le film que je viens de voir ?
Absolument pas.
D'accord.
Et vous pouvez nous parler de votre parcours un petit peu, du coup ?
Alors, justement, j'avais une question sur votre parcours. Vous avez été assistant réalisateur de Krzysztof Kieślowski sur deux de ses films, sur Trois couleurs bleues et Trois couleurs blancs, donc en 1993-94. Qu'est-ce que vous avez appris auprès de lui ?
Ce que j'ai appris, ce qui m'avait le plus touché et marqué à l'époque, c'était la construction de son film avec l'image, effectivement, avec son chef opérateur qui... sur Bleu, qui était Slavomir Idziak et qui d'ailleurs qui est nommé au scénario rien que parce que son travail de chef opérateur, quoi, d'écriture caméra était très importante. Et puis aussi son rapport aux comédiens, le fait de pas trop leur parler, ça, j'ai trouvé ça. Tout était fait au casting en quelque sorte, et qu'après. Ça se passe dans les regards et dans la présence commune.
Il n'y avait pas une direction d'acteur effacée
J'avais demandé à Juliette Binoche une fois si comment ça se passait, parce que il me semblait qu'il ne lui parlait jamais. Elle m'a dit mais si, il me dit tout en fait. Donc il dit tout avec le regard, avec peut-être quelques petits indices. Mais voilà, le fait de j'ai appris, mais enfin j'avais senti ça en vrai, parce que j'y étais confronté, j'étais assez proche. À évacuer toute psychologie, en tout cas dans le rapport à l'acteur. Ça c'est quelque chose qui est resté et qui, du coup, travailler avec des. Comme à Péniche, là au Portugal, sur ce film-là, avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, là, j'avais rien à faire, j'avais rien à leur dire d'un point de vue psychologique, et même, j'avais surtout pas à leur dire de bien jouer. On s'en foutait totalement, quoi, de passer d'un jeu ou d'un autre, enfin tout était parfait pour moi en fait.
Et à quel moment vous vous êtes mis à la réalisation ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Un moment, un basculement,
dans ma vie ?
Oui, je sais pas. Non, je veux pas aborder votre vie personnelle, mais à partir de quel moment vous vous êtes dit moi aussi et je veux réaliser des films, et pourquoi ? Pourquoi c'était une nécessité ?
Ouais, je sais pas. J'ai mis du temps à aimer le cinéma, en fait. Je voulais être peintre, je voulais être philosophe, être poète, enfin bon. Puis après des études de philo, je me suis dit tiens, je vais faire assistant réalisateur pour avoir un espèce de. Et puis non, la réalisation je pense que c'est de la faute de grands cinéastes, en fait. C'est à cause d'eux.
Et quels grands cinéastes ?
Ben, c'est un peu toujours les mêmes, non ? C'est Tarkovsky ou Bergman ou des gens comme ça, quoi, évidemment. Mais bon, après, c'est... Ouais, c'est... Puis Kieślowski aussi, en fait, parce que quand j'étais étudiant, j'avais fait un travail sur lui, en fait. Et un an après, je me retrouvais avec lui, donc sur le plateau. Et ça, c'était... j'étais ravi de cette rencontre. Enfin, c'était...
Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici à Belfort pour le festival Entrevue ?
C'est la première fois dans les deux sens. Enfin, j'ai jamais été spectateur ni réalisateur ici. Ouais, c'est la première fois que je viens.
Et alors, votre expérience ? Pour le moment, vous repartez tout de suite là, donc on va pas tarder à vous laisser partir.
Ça marche. Bah, l'idée, je suis allé voir d'autres films de la compétition et je suis ravi parce que je trouve qu'il y a une diversité affirmée. Et la qualité est vraiment au rendez-vous, et donc j'étais enchanté de découvrir tout ça.
Et en tout cas, moi j'étais enchantée de découvrir votre film également.
Merci.
On vous souhaite, on croise les doigts, on vous souhaite le meilleur. Et merci. Je vais vous laisser reprendre votre voiture puisque vous avez votre train incessamment.
Oui.
Et en tout cas, merci d'être venu présenter ce film-là et de nous en avoir parlé. Et à bientôt peut-être.
Avec plaisir, merci.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.